château, on va visiter les nobles.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Pourquoi la grande peur à l'été 1789 ? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution française. Aujourd'hui, troisième épisode, toute la France est touchée. Entre le 22 et le 30 juillet 1789, la peur se propage par vagues. Par exemple, le 23 juillet, jour qui sera appelé ensuite le jeudi fou, elle atteint le village de Ballon, près de Mamers dans l'actuelle Sarthe. Curot, un riche marchand, et le comte de Montesson, deux personnalités locales connues pour leur opposition aux patriotes, sont reconnus par une bande de plusieurs centaines de paysans et d'ouvriers, brutalisés comme accapareurs de grains et comme aristocrates. Enfin, ils sont tués, décapités, leurs oreilles et leur nez coupés. Le 1er août, dans le Limousin, il s'en est fallu de peu que le comte de Douai ne connaisse le même sort, pour des raisons bien différentes. Ce jour-là, cet aristocrate quitte son château avec ses hommes en armes. Portant une besace avec du vin, du pain et des cartouches, le comte de Douai est lui-même armé de son épée, d'un fusil et de deux pistolets. La troupe se rend dans le village voisin dans le but, courageux, d'affronter des brigands. Depuis deux jours, en effet, la rumeur court que 500 brigands s'apprêtent à attaquer le village. Mais à peine le comte et ses hommes sont-ils arrivés que les habitants, les prenant pour les brigands, se jettent sur eux pour les massacrer. Ils sont sauvés in extremis par les autorités locales qui les enferment dans la prison, le temps de calmer la foule. Le comte de Douai a échappé de peu au lynchage. Mais ce contre-révolutionnaire assumé, et sans doute échaudé, préférera bientôt émigrer comme d'autres aristocrates.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Ah, mon ami, Marguerite vient de nous apprendre que le curé avait reçu une lettre de Limoges disant que nous devions nous attendre à de grands malheurs. Maître Tardy annonce que les brigands avancent et il raconte des absurdités sanglantes sur l'armée du comte d'Artois.
Une absurdité, peut-être pas pour tout le monde. Je suspecte fort les agitateurs du tiers de vouloir effrayer nos paysans.
Ce qui reste mystérieux, c'est le moyen par lequel se propagent les rumeurs de la venue des brigands d'une région ou d'un village à l'autre. Est-ce par le tocsin entêtant des clochers, le roulement des tambours qui résonne loin dans les campagnes, enflammant les peurs et les imaginations ? Ou est-ce par des lettres rédigées par les curés ou par les seigneurs et transportées par des messagers à cheval ? Fin juillet, les révoltes atteignent leur force maximale. Dans le sud-ouest, près d'Agen, le curé du village de Pressas écrit « Le dernier jour du mois de juillet 1789, un vendredi, à 10h du soir, il y eut dans la paroisse grande alerte, occasionnée par la peur des Anglais avec lesquels nous étions pourtant en paix. On sonnait le tocsin de toutes parts depuis 8h du soir. » Sur l'envoi de trois émissaires du village de la Cépède, qui demandaient du secours, menacés, disaient-ils, par 10 000 brigands, les nôtres s'y rendirent, armés de fusils, de faux et de broches. Mais, arrivés à la Cépède, ils apprirent que tous ces bruits étaient sans fondement. Puis le curé de Pressas, visiblement surpris par le phénomène de la rumeur, raconte comment l'alarme s'est répandue progressivement. À Bordeaux, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Condom, le vendredi à midi, à Agen, le jeudi soir à 9h. Mais à Agen, à 1h du matin, tout fut calme. Jean-Clément Martin, on voit que tout le monde n'est pas dupe de ces rumeurs. Dans le Limousin, les autorités qui enferment le comte de Douai quand il est menacé d'être lynché, le curé de Pressas qui raconte justement cette propagation de la rumeur. Il y a quand même des gens qui voient bien que tout ça, c'est quand même de la rumeur.
Oui, et c'est ça la question. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas ? Cette espèce de rencontre entre des attentes paysannes un peu folles et puis un peu désespérées, avec des ruptures, des tensions entre les élites. Eh bien, c'est ça ce qui se passe. Et quand il n'y a pas suffisamment de tensions entre les élites, ces élites résistent et disent « c'est le Bordelais ». Le Bordelais, il y a quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que le premier semestre de 1789, les impôts royaux n'ont jamais été mieux perçus. On l'oublie tout le temps. C'est-à-dire que, alors que toute la France est en ébullition, dans le Bordelais, tout le monde paie ses impôts. Bon. Et ce qui se passe là, c'est cette cohésion des élites, ça ne durera pas. Rassurez-vous, le Bordelais va s'enflammer aussi. Mais là, en attendant, il y a cette cohésion entre les grands armateurs, les nobles, et puis toutes les classes moyennes, pour faire bref, qui font que cette cohésion, eh bien, empêche que ces rumeurs se propagent et qu'on ne croit pas ce que les paysans vont faire. Je reviendrai sur Douai.
Le comte de Douai,
qui est un brave type.
Ben oui, il part, il s'arme avec ses hommes armés, il part avec son petit sac, avec ses provisions, ses armes.
C'est
Don Quichotte. Il veut aller chasser les brigands.
Voilà. Bon, et ce qui se produit, c'est que comme il se déplace avec une quinzaine d'hommes en armes, il fait peur et qu'on va le suspecter d'être brigand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut dire deux choses. On va l'emprisonner, mais c'est ça qu'il sauve.
Mais oui,
de Limoges se rendent parfaitement compte que ce type qui est un vrai contre-révolutionnaire, vous avez raison, il va émigrer, mais qui, dans l'immédiat, est un brave père de famille qui n'a pas compris que les choses avaient changé. Eh bien, on le met en prison pour le faire
pour le protéger.
Ça retombe et on va le libérer au bout de 6 mois. Et c'est ça que Curau et Montesson à Ballon n'ont pas compris. Parce que eux, ce sont des grands bourgeois et des nobles du Mans qui ont fui pour se mettre dans la campagne. Et qu'est-ce qu'ils font quand les paysans viennent en disant sonnez le tocsin dans le château dans lequel vous êtes? Ils refusent. Un peu avec dédain et mépris. Et d'un seul coup, leur réaction leur ravive une colère qu'il y avait contre eux et ils vont être tués. Mais de tuer dans ces révoltes paysannes, comme il y en a eu tout le temps, en 1870 par exemple, dans le Limousin, où un noble a été accusé d'être prussien, qu'on a tué et même mangé un peu, eh bien, c'est ce qui leur arrive. Donc, ce n'est pas la révolution qui guide ça, c'est tout simplement le fait que quelles sont les réactions que les élites ont vis-à-vis des gens qui sont insurgés.
On voit bien la dimension irrationnelle qu'il y a dans ces paniques, mais est-ce que ces attaques paysannes ont quand même une forme de rationalité qui nous échappe à première vue ?
Alors, vous allez me pardonner, mais je pense que l'irrationalité gouverne toute l'histoire et toutes les époques.
D'accord.
Donc, nous baignons dans l'irrationalité. Dans l'irrationalité. Est-ce qu'on peut expliquer rationnellement ?
Non, mais enfin, les brigands, tout ça, c'est quand même très irrationnel.
Ça a toujours été, cette crainte des autres et ce sentiment de défense et ces luttes intracommunautaires, mon Dieu, on va le trouver tout le temps, et je pense qu'en 2026, on nous en sommes pas loin. Donc, moi, je dirais qu'on est là, dans des registres différents, et ce qui est certain, c'est que, et je reviendrai toujours au même point, ce sont les élites qui vont réussir à capter les demandes, éventuellement les transcrire dans un registre politique ou qui ne pourront pas. Et je crois qu'on verra comment des gens vont véritablement transformer en loi et en transformation de la société ce qui était jusque-là l'éruption volcanique.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la grande peur s'arrête ?
La première chose, c'est que nous dirons que la grande peur s'est arrêtée. Parce qu'on ne baptisera plus ce qui s'est passé après. Parce que ce qui se passe en 1790 dans le Périgord, les châteaux qui brûlent partout dans le Massif central, 1791-92, c'est la même chose. Sauf que quand on parle de grande peur, c'est le moyen surtout de comprendre un épisode qu'on a du mal à intégrer et qu'on le met, en parlant de la grande peur, dans la marche générale de la Révolution. Une révolution nobiliaire, une révolution parlementaire, une révolution parisienne, une révolution rurale, et je dirais, ça marche.
Merci Jean-Clément Martin. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le pouvoir politique, en l'occurrence le roi et l'Assemblée nationale, réagissent à la grande peur, ou ne réagissent pas.